C'est oui ou bien c'est non, la question du jour pour aujourd'hui. En temps de guerre, a-t-on le droit de s'amuser? La question est posée, elle est même très touchy. Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs de cette question?
Eh bien, alors, ils sont très clairs. C'est un oui massif. 92% de oui, 92% de oui sur Facebook et 94% de oui sur Insta et une majorité large de oui sur X également. Pourtant, c'est vrai que c'est une question que se posent les Israéliens de manière compliquée. Et donc, je voulais qu'on ait l'avis de notre invitée ce matin. Myriam Ilouz, bonjour.
Bonjour, Ben Kemoun.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychanalyste. Alors, c'est normal que les Israéliens se la posent parce qu'il y a une grande culpabilité. Et est-ce que c'est normal, Myriam Ilouz, que les autres, en l'occurrence les auditeurs, qui pour la plupart ne sont pas forcément israéliens, trouvent, leur donnent cette autorisation de s'amuser en temps de guerre?
Évidemment que les deux sont normales, bien normales. Alors, les Israéliens se sentent coupables, pas simplement parce que l'idée abstraite de l'amusement est antinomique avec l'idée d'un pays en guerre, mais aussi et surtout parce qu'ils vivent un quotidien avec des proximités familiales, amicales, de gens qui sont sur le front, et que la question est plutôt la suivante pour un Israélien. Puis-je aller m'amuser quand le fils de ma voisine est au front à Gaza? Ai-je le droit d'aller m'amuser quand mes neveux sont au Liban? Alors la question, vous voyez, elle prend évidemment une ampleur très différente. Quel étranger on trouve qu'il soit parfaitement légitime et normal que les Israéliens continuent à s'amuser, c'est une chose. Mais nous ne sommes pas dans cette proximité évidente avec ceux et celles qui non seulement ont des proches au combat, mais qui ont aussi perdu des enfants. Cette guerre a été très meurtrière, elle est encore très meurtrière. Et quand on est infiltré jour après jour par le nombre de décès qui s'accumulent, eh bien, vous voyez, la culpabilité prend évidemment une autre ampleur.
Alors, cette question, les Ukrainiens aussi se la posent depuis le début de la guerre. Et dans les deux cas, on parle de résilience et il y a aussi une grande actualité artistique, si j'ose dire. C'est aussi une façon de répondre à la guerre qui est peut-être pas totalement de l'amusement, mais qui permet au moins d'extérioriser tous ces sentiments et ces émotions compliquées qu'on vit quand on est en temps de guerre, Myriam Ilouz.
Ah ben écoutez, vous avez déjà, si j'ose dire, précisé les contours de votre question par la question elle-même. Bien évidemment que l'amusement permet d'extérioriser une part émotionnelle complexe. Et puis, est-ce que vous saviez, par exemple, que sous le gouvernement de Vichy, très rapidement, tous les bals avaient été strictement interdits? Il y avait toute une idée autour de la luxure qui avait été pour beaucoup dans l'entrée en guerre et dans la défaite morale des Français, pour les Français. Et très rapidement, se sont organisés des bals musettes secrets. Les gens se retrouvaient, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, hein. Donc l'information passait sous le manteau, ils se retrouvaient secrètement dans un appartement. Il trouvait un accordéoniste, un musicien quel qu'il soit, en douce, et ils organisaient des bals musettes. Alors, tout ça, c'est évidemment pour vous dire combien vous avez raison, Lise. On a d'autant plus besoin d'amusement, mais pas au sens de la légèreté, d'amusement au sens de détourdissement, d'extériorisation. Et puis, le dernier point qui est sans doute le plus fondamental dans la question que vous posez aujourd'hui, c'est que l'amusement, eh bien, c'est un lien social. Et que ça permet, la plupart du temps, évidemment si on exclut les rares jeux solitaires, mais l'amusement, ça permet de rencontrer d'autres gens que soi qui traversent la même chose en temps de guerre. C'est surtout ça le point principal. C'est que quand un Israélien descend boire un verre ou qu'il va dans un bar pour danser eh bien, il va rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes préoccupations que lui et qui, pardonnez-moi d'être un petit peu cru, mais qui a les mêmes bombes au-dessus de la tête et qui répond aux mêmes alertes. Alors, l'amusement, ça sert surtout à ça, à faire du lien social, en plus, évidemment, de permettre l'extériorisation ou la formalisation des émotions.
Et justement, Myriam, je comprends que c'est l'isolement donc qui est le plus néfaste souvent en temps de guerre pour les populations.
Évidemment, évidemment. Face à l'isolement, on est difficilement capable de mobiliser ce qu'il faut d'outils psychologiques pour lutter contre le stress aigu, la terreur, évidemment, toute la panoplie anxiogène que génère le fait d'être en guerre. Alors, quand on est plusieurs, eh bien, comme dit le dicton, tout bêtement, on se sent moins seul. Et à se sentir moins seul, on dilue quelque chose de l'anxiété que l'on porte en groupe. Et le groupe est toujours plus fort qu'un individu tout seul. Évidemment que c'est ce dont on a besoin en temps de guerre, de ne pas s'isoler.
Est-ce qu'on peut donner quelques petits conseils pratiques rapidement, Myriam Idouz, pour les gens qui nous écoutent et qui sont en Israël en ce moment en guerre ?
Des conseils pratiques pour faire face à la guerre ? Vous voulez dire ?
Non, pas pour faire face, pour aller mieux, pour mieux la supporter. Pour...
Oui, écoutez, je crois que chacun a ses remèdes personnels. Il y a des gens qui, pour prendre des exemples, vous évoquiez la création artistique beaucoup plus riche en temps de guerre. Il y a des gens pour qui peindre, sculpter, dessiner est une source d'apaisement. D'autres pour lesquels faire un jogging en s'épuisant et en transpirant sera ce qu'il y a de plus accompli. Et je prends à dessein des exemples d'activités solitaires. Pour dire deux choses. La première, c'est que probablement que l'équilibre vient de l'alternance à la fois d'activités solitaires où on va pouvoir exprimer quelque chose de soi dans un contact et dans un lien à soi-même afin de solidifier une forme d'expression de sa personne et en même temps de pouvoir rencontrer les autres cette fois-ci pour renforcer le lien social et pouvoir se sentir soutenu par un destin commun. Et c'est sans doute là-dessus, si vous me le permettez, que je souhaiterais finir, c'est qu'il n'y a pas que les Israéliens qui sont angoissés en temps de guerre. Les Juifs tout entiers sont angoissés. Nous sommes angoissés du destin de la nation, nous sommes inquiets de ce que notre peuple subit, traverse, et en ce sens, bien entendu, que nos angoisses ne sont pas les mêmes que celles des Israéliens, qui vivent une situation très cruelle, mais le Ham Israël dans son ensemble est aujourd'hui concerné par les manifestations anxieuses, et c'est donc à tous les Juifs qu'il faut conseiller de continuer à vivre et à s'amuser.
Merci beaucoup, Myriam Idouz. Ça me paraît une bonne prescription. Psychologue clinicienne, psychanalyste, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Bonne journée à vous.
Au revoir.